La Post Club, épisode numéro 103. Bienvenue à toutes et à tous.
Coucou.
Coucou.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'album Le Cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell, son 22e album studio, sorti le 6 mai 1982 sur le label Barclay et produit par Jean Tennessee Fernandez. Alors, qui nous avons autour de la table ce soir? Nous avons Pierre. Salut Pierre.
Salut.
Comment vas-tu?
Très bien, depuis que j'ai ce magnifique micro.
Ah, on t'entend mieux là. Oui. Ah,
t'as un micro qui fait des lumières et tout, oui. C'est magnifique.
Oui, là, turquoise. Là. Oui.
C'est la boîte de nuit, c'est Victor. Non, c'était comment? C'était.
La boîte de nuit, c'est quoi? C'est Victor qui?
Je crois non, qu'on peut pas le désactiver.
C'était Boris, pas Victor. C'était
ah, Boris. Ah, c'est Boris, voilà.
Ah, Boris. Soirée disco.
Soirée disco. Soirée disco. Disco. Nous avons aussi Seb. Salut Seb.
Bonsoir et toutes mes confuses et mea culpa pour le son de chiottes que Pierre avait sur l'épisode sur Genesis. C'est ma faute, j'en prends l'entière responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai financé le micro qui l'utilise actuellement. et voilà, c'est ma faute, j'ai merdé. Non, je ne l'ai pas enfermé dans une cave, contrairement à ce qu'on pourrait croire en écoutant l'épisode. Il était juste à côté de moi, mais le micro qu'il avait devant lui, j'ai perdu la piste, et du coup on n'entend que ce qui est sur ma piste à moi. Donc comme il était un peu loin, voilà, ça fait de la réverbération.
Et qu'il parle pas fort de base, donc
voilà, voilà. Et sinon, très content de participer à l'enterrement d'Eddie Mitchell ce soir.
D'ailleurs, voilà. Je crois que ce sont tes deuxièmes prénoms.
Alors voilà, moi j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour Eddie, parce que déjà, j'ai toujours eu de la peine, parce que j'ai toujours trouvé que le gars, il était dans l'ombre de Johnny. Et oui. Que si Johnny n'avait pas été là, c'est lui qui aurait été la superstar en France, en fait.
Oui, oui. Ils jouent pas dans la même catégorie non plus. Hein. Ils font pas du tout la même musique en vrai.
Ouais. Non, bien sûr, mais en termes de star et tout ça, même il est plus discret aussi.
Ouais, je pense qu'il est content. Je pense qu'il est content.
Oui,
ça,
oui,
en fait.
Je pense qu'il est content. Y a pas de souci. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il était dans l'ombre de Johnny, quoi. Tu vois, moi, j'ai grandi.
Ils ont commencé ensemble, hein, forcément.
J'ai grandi c'était pas moi qui écoutais, c'était mes parents. Bref, voilà. Et puis, le hasard de la vie fait que, effectivement, mes deuxième et troisième prénoms sont Michel et Eddie, et que donc, j'ai une homonymie un peu tirée par les cheveux avec Claude Moine.
Merci Seb, et nous avons JP. Salut JP.
Salut.
Comment ça va?
Écoute, fin bien.
Fin bien, très bien, impeccable. On embrasse Tim, Walter, Erwan et Loïs. Vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast,
Ocha...
Et Luc, évidemment, Luc, on l'embrasse beaucoup. Voilà, on embrasse tout, évidemment.
Je me disais, il y a manqué. Voilà. Ça va être compliqué, c'est quand tu vas en annoncer 9 qui voilà. Sont pas là.
Eh oui, bah bon. Voilà, mais ils reviendront très prochainement dans la Post Club. Petit quiz, le titre de 1982 le plus streamé sur Spotify, est-ce que vous avez une idée?
Chacun fait ce qui lui plaît.
Comment?
Chacun fait ce qui lui plaît.
Non, c'est un titre pas francophone.
Ah. 82
82, c'est très 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 connu.
1999 de Prince.
Non.
Bon, je m'en doutais, hein, mais bon, c'était une histoire de le placer.
Voilà.
Mais Little Red Corvette de Prince.
Sauf que Indie Art Night, c'est 81, mais
oui, c'est 80. Une chanson qui est devenue un peu à la mode maintenant.
Ah.
Et on a fait ça dans la post-club, vraiment au tout début de la post-club.
Un petit Metallica des familles.
Non, pas Metallica. Ils n'étaient pas encore dans le game en 82.
Toto, bon, 80. Toto. All the Line.
Non, c'est pas All the Line, mais tu l'as dit au
Africa.
Début. Africa. Africa, voilà.
Oh.
Alors, avec 1 milliard...
Ah, mais oui, mais oui. Je suis bête. Ouais. Je suis bête. J'étais sur le premier album en 82, mais voilà.
Non, c'est le Toto 4. Donc, 1,658,672,346 streams au 27 février 2024.
Oui, pas mal.
1,6 milliard, voilà. Et aussi...
C'est pas mal.
Un autre Africa est sorti en 82, une chanson complètement différente par Rose Laurence.
Ah
et
oui.
Du coup,
ah oui.
Combien de streams? C'est en 82 aussi. Combien de streams pour Africa de Rose Laurence?
Oh bah moins forcément.
12.
Hein.
Oui. Non, pas 12
non,
quand même.
Non. Non, ça marche, ça s'écoute. Ça. Le truc qui veut faire les années 80, il la passe.
100 millions?
Non, pas 100 millions quand même.
Non, je dirais...
Mais c'est dans les millions, on est au-delà
ouais, de... Oui, oui, oui. Je dirais 17 millions.
17 millions?
Oui.
12 millions.
Ah ben,
j'étais à 12, donc 12.
Bah, 12.
Voilà. Seb, t'es le plus proche avec 13,163,484.
Ah, 12 millions en premier.
Ah, ben voilà.
Je réclame cette victoire.
Alors, donc du coup, pourquoi j'ai choisi le cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell ?
Pourquoi ? Voilà pourquoi. Dis-nous pourquoi.
Alors, je sais que je vais être seul contre tous ce soir, déjà.
Ça dépend des chansons.
Voilà, c'est ça. j'aime beaucoup Eddie Mitchell parce que, évidemment, comme tu l'as dit, Seb, c'est un peu l'outsider du truc. C'est qu'il est beaucoup plus discret aussi, comme tu l'as dit, JP. C'est qu'il a été un petit peu. Moi, je le trouve plus rock que Johnny, pour le coup. Et il a un deuxième degré que Johnny n'a un peu moins. Donc, du coup, je me dis, et en plus, je l'adore comme acteur dans le Bonheur et dans le Pré, il est incroyable.
Et dans La Totale.
La Totale aussi, voilà.
La Totale. Alors, en plus, on a revu La Totale il n'y a pas très, très longtemps. Donc, les gens qui ne le savent pas, mon épouse s'appelle Vanessa. Et il y a une call girl à un moment donné. Et elle s'appelle Vanessa. Et Eddie Mitchell dit, de toute façon, elle s'appelle toute Vanessa. Donc, depuis, j'appelle Vanessa, mon épouse, La Totale.
Ah, d'accord. Ok, très bien. Et aussi, donc, La Totale qui a été la base d'un remake True Lies de James Cameron.
Oui, alors ça, on aurait pu s'en passer par contre.
Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre un album déjà aussi de variété française parce que c'est pas souvent qu'on en fait. Enfin, si, avec Hold the Life et tout, mais de ma part, j'écoute pas beaucoup de variété française, à part Scheller, Eddie Mitchell et peut-être un petit peu aussi Louis Chédid, mais pas plus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un petit.
C'est gentil à toi de pas mettre Jean-Jacques dans la variété, ça me fait plaisir.
Ah oui, c'est
du premier degré.
Voilà, oui, très bien. Oui, mais c'est vrai qu'on a, on a fait une porte d'entrée sur Jean-Jacques Goldman, mais on n'a pas fait un album en. Ah si, on a fait Rouge.
Si, on a fait Rouge.
On a fait Rouge. Mais voilà.
Après, donc, on peut argumenter que c'était Frederick Goldman Jones et débat voilà. Goldman.
Donc,
tout
voilà. Donc voilà.
Tout ça pour dire que le chef a toujours raison quand même.
Merci beaucoup.
Ah, il essaie donc, de le sauver.
Donc, comment vous avez découvert Eddie Mitchell autour de la table Pierre, tiens, tu t'en avais entendu parler avant ou c'est la première fois que tu écoutais Eddie Mitchell?
Ouais, non. Alors, je connaissais le nom Eddie Mitchell. Je savais que c'était quelqu'un qui faisait de la variété française. Mais je crois que j'avais jamais vraiment écouté de morceaux, si je dois quand même connaître Sur la route de Memphis. Mais à part ça, pas grand-chose.
Ok.
Sur la route de Memphis.
Non, je savais que ça allait arriver.
Oh, moi je suis pas Elvis.
Bon, Seb, JP.
tu demandes à Seb ou à JP là du coup?
Bah allez, JP, après tu feras ça, Seb.
Alors moi je connais principalement un album qui doit être une compile qui s'appelle L'épopée du rock'n'roll.
Ok.
C'est un double album avec un super dessin sur la pochette que j'ai toujours vu dans la discographie. Je sais plus de qui d'ailleurs, c'est ma mère ou mon père, enfin j'en sais plus rien. Et je l'ai récupéré bizarrement ce disque, donc je l'ai chez moi. Et puis sinon je connaissais les singles bien sûr, surtout dans les années fin des années 70, début des années 80, Couleur Mentalo, Dernière Séance, enfin bon les classiques. Et puis je le connaissais.
Dernière Séance. Alors il n'y a pas Loïs ce soir, vous savez que Loïs est un très très bon imitateur, donc j'ai décidé de le remplacer, sauf que moi je suis un très très mauvais imitateur.
Mais t'es un très bon imitateur.
Et je connaissais aussi Vieille Canaille, bien sûr, le duo avec Gainsbourg.
Gainsbourg, ouais.
Forcément. Et j'avais écouté quand même deux, trois albums, notamment.
Et Boogie Woogie.
Non, mais oui, mais ça fait partie des classiques que je connaissais, oui, bien sûr. Et j'avais écouté quand même deux, trois albums. J'avais écouté la fin des années 80, donc Mitchell, ici Londres, avec Ledgewood Blues. Et puis Rio Grande aussi. À l'époque, il avait vachement cartonné.
Il était bien celui-là. On aurait pu faire celui-là. Il était bien.
Bah, tu sais que j'ai hésité avec celui-là, plus.
Ouais. Et voilà.
Ouais, je sais pas. Et voilà. Bon, après, je suis pas. On va le dire tout de suite. Je suis pas très très fan de sa musique. Ça me parle pas des masses. Et par contre, je le préférais en présentateur télé passionné de cinéma avec La Dernière Séance.
Ah bah oui. Évidemment.
Parce que j'ai découvert un paquet de films avec lui.
Ah bah
enfin, grâce à lui, en tout cas.
Ouais.
Et puis comme acteur, je l'aime beaucoup comme acteur, notamment dans le film de Mocky. Comment il s'appelait? J'ai perdu le nom. Il joue un arbitre, à mort l'arbitre.
À mort l'arbitre, ouais, ça.
Voilà. Et voilà, donc je connaissais, mais je connaissais pas plus que ça en vrai. Je connaissais les tubes, quoi, enfin, les trucs qui passaient à la radio, quoi.
Merci JP et Seb.
Oui, eh bien, moi je suis un peu comme JP, c'est-à-dire que c'est dans l'inconscient un petit peu de la culture où tu connais les titres parce que tu l'as vu à la télé quand tu étais gamin. Plein de fois, quoi. Et en l'occurrence, moi, le seul disque que j'ai où il y a du Eddie Mitchell dessus, c'est un disque des Enfoirés, qui s'appelle Tournée d'Enfoirés 89, qui était le premier album, la première tournée des Enfoirés, en fait, où il y avait juste Goldman, Johnny, Sardou, Véronique Sanson et Eddie Mitchell. Et voilà, il y avait Sur la route de Memphis dessus. Et il y avait aussi Le cimetière des éléphants en duo avec Véronique Sanson. Et c'était un enfer, cette version. Ah,
très bien, très bien.
C'est une catastrophe. Donc j'en reparlerai quand on arrivera à la chanson, mais j'ai un passif négatif.
Ok, de toute façon, elle va arriver très vite parce que c'est. Oui. Bah, on va commencer par évidemment l'album. Le cimetière des éléphants, la version New York. Qui veut commencer ? Bah, JP, tiens, je vais te laisser commencer.
Ouais, bah, c'est un classique. Hein. Voilà, je crois que c'est le seul single de l'album. Hein.
C'est possible.
De mémoire.
Oui.
C'est un morceau qui annonce en fait bien la couleur du disque. Ce qui me fait dire quand même qu'avec ce morceau, tout est dit. Et voilà, donc tout est dit.
Donc tu
Mitchell, bien sûr. Oui, tout évidemment. Est dit Mitchell. Non, voilà, bon, c'était pour faire la blague. Alors, voilà, ça sent la fin des années 70, début des années 80, avec un sax qui est bien présent. Et ça sent aussi bien la classe américaine, avec un son bien moelleux, gentiment groovy, bien rond, très clean. Voilà, il s'est fait plaisir, il a été enregistré au States avec des musiciens de là-bas. Oui. Steve Gadd à la batterie.
Voilà, sur le cimetière des éléphants, c'est Bernard Purdy qui a aussi joué avec Steely Dan aussi. Ouais, c'est pas un manche, quoi.
C'est voilà. Pas un manche, ouais. Voilà. Mais ça s'entend, hein. Ça joue quand même smooth. Hein. Là, pour ça, sur tout l'album, ça va être quand même ça.
Oui.
Le son, bien qu'il ait passé par trois endroits différents et tout ça, le son est quand même assez moelleux aux oreilles. C'est quand même sacrément bien foutu. Et là, bon, ben voilà, c'est un classique et ça se comprend parce que c'est vraiment un morceau qui est bien écrit. Mm. D'ailleurs, tous les morceaux sont écrits par le même duo. Hein,
ouais. Papa Diamandis, ouais.
Papa Diamandis à la musique et Claude Moine aux paroles. Donc, voilà.
Tous.
Non, il y en a un, malheureusement, et qu'il aurait bien fait de ne pas faire. Mais oui. On y reviendra plus tard. Et donc, c'est un morceau vraiment, vraiment chouette. Vraiment tout doux dans vos oreilles. C'est vraiment le Eddie Mitchell crooner. En fait, pour moi, quand on parlait de Johnny, je trouve qu'il n'est vraiment pas sur la même veine. Il est vraiment sur un côté plus crooner, plus détendu. Il y a moins ce côté rock'n'roll qu'il avait peut-être au début avec les chaussettes noires et tout ça. Mais qu'il a perdu finalement assez vite, quoi. À la fin des années, enfin au milieu des années 70, il a quand même bien changé de style. Il est devenu plus coolos. Et je trouve que ça lui va super bien. Enfin, ça, il a un côté plus crooner. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Et en plus, il a la voix pour. Donc, non, vraiment, c'est un super titre, Le cimetière des éléphants. C'est un morceau, c'est un tube et ça se comprend, quoi. C'est vraiment super bien écrit et bien interprété. Le texte, pour une fois, est pas trop con. Donc, parce qu'il y a d'autres morceaux, on y viendra, où vraiment c'est compliqué. Mais là, non, c'est vraiment bien. Donc, un petit 8.
8 pour JP. Pierre !
Je vais essayer d'apporter des arguments pour ne pas juste dire que j'aime pas. Mais en gros, ouais, j'aime pas. On est d'accord pour dire que si on écoute un album de variété française, c'est plutôt exclusivement pour le chanteur et pas pour les musiciens qu'il y a derrière ou quoi que ce soit d'autre. Sauf que là...
Ça dépend.
Oui, ça dépend. Mais ici, si vous écoutez Eddie Mitchell, c'est pas pour le gars qui fait la basse.
Ben en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que justement, il prend des musiciens exprès, Ricain et tout ça, pour justement avoir des putains de musicos derrière, quoi. Donc,
oui, mais moi, je comprends ce que veut dire Pierre, pour le coup. C'est, tu t'achètes pas le disque parce que c'est Steve Gadd à la batterie, quoi. Tu l'achètes parce que c'est Eddie Mitchell.
Oui, non, mais c'est vrai pour n'importe quel musicien.
Oui, c'est ce qu'il dit.
Non, mais pour n'importe quel chanteur, en vrai. Bon, tu vas pas acheter un disque de Alain Machung parce que t'as Marc Ribot à la guitare, alors que ça fait beaucoup dans le son, tu vois.
Vas-y, Pierre, continue.
Non... En fait, là, si on omet le fait assez subjectif que j'aime pas vraiment sa voix et sa façon de chanter, bah, les paroles sont plutôt catastrophiques pour moi. Entre les trucs qui veulent rien dire, du style solution sans problème, gadget évident, ou qui est quand même une phrase assez merveilleuse, je trouve. et des métaphores culinaires comme je suis pas périssable, bon à consommer, qui n'ont pas grand chose à faire lâche. On dirait qu'il y avait plus d'inspi pour écrire, mais c'est pas vraiment ce que j'apprécie le plus dans la chanson française. En plus, je trouve que la chanson est beaucoup trop longue pour ce qu'elle est, puisqu'elle se répète tout le temps, avec un nouveau record du monde d'ailleurs, de 2 minutes de refrain en boucle sur 4 minutes de chanson, qui sont toujours suivies de la même mélodie au saxophone qui dure 20 secondes, mais 40 secondes à la fin du deuxième refrain, parce que pourquoi pas, mais par contre avec un fade-out, parce que la flemme de faire une refrain, on est dans les années 80, mince. Ce qui donne 75% de la chanson qui est soit très similaire, soit identique à autre chose. Donc, bon, même si la partie instrumentale derrière n'est pas foncièrement mauvaise, d'ailleurs, je crois qu'il faut plus de 20 chansons pour jouer la chanson. Bref, 20 accords, je sais plus parler.
20 accords pour
jouer la chanson. Ouais, 20 accords. Bref, le tout me fait juste rien, quoi. La chanson passe et j'arrive pas à en tirer grand chose de positif, donc j'hésitais à mettre entre 4 et 5, mais je pense que je vais rester sur 4.
Donc Pierre, un nouveau micro et une nouvelle façon de parler, et il est beaucoup plus mordant. Ok, très bien.
Hein ? Comment ça, une nouvelle façon de parler ?
Sébastien.
Alors bon, moi je l'ai dit, moi j'ai découvert cette chanson par Les Enfoirés avec le duo Catastrophique avec Véronique Sanson. C'était une torture. Cette version, et du coup j'ai une mauvaise histoire avec la chanson, quoi, parce que voilà, mais elle colle au doigt tellement elle est sucrée, c'est horrible. Ce Rhodes, il m'ennuie, mais alors il pue la BO des films porno des années 80, c'est un enfer. Mon Dieu, j'ai envie de... Mais voilà, j'admets volontiers que j'ai cette chanson dans le nez depuis toujours, donc que je suis pas objectif avec. Probablement que si j'avais pas cette histoire-là, je pourrais l'aimer, mais je ne l'aime pas. Et honnêtement, en plus, pour moi, c'est la meilleure chanson du disque. Donc...
Vie ma vie.
Oui, oui. Bonjour JP.
Et voilà. Donc, je me suis permis, j'ai pris cette petite... Je me suis fait cette permission, auto-permission, de ne pas noter les morceaux.
Voilà.
Parce que c'était entre 2 et 4 tout le temps.
Mais tu peux mettre 2 ou 4, hein, c'est pas grave. Donc, tu mettrais plus 4.
Plus 4, si plus 4. Allez, plus 4.
Allez, 4.
Non, on est cordes.
Mais en vrai, voilà, c'est infernal.
Ok, bah, pas de soucis, ça
mais
marche.
Et c'est la meilleure du disque.
Oui, mais on va venir après.
Enfin, non, c'est pas vrai, c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est la version de la
Los Angeles.
Ok, voilà, il y a Los Angeles aussi. Donc moi, j'ai mis 10. Le texte est incroyable. Papa Diamant 10 qui a écouté Paul Simon, qui a écouté Steely Dan. Moi, c'est ma cam, évidemment. Bernard Cordier.
Paul Simon, c'est clair, ouais.
Ah bah oui.
Paul Simon, c'est clair.
Voilà.
Et je pensais que sur la version de New York, c'était Steve Gadd, du coup.
Ben en fait, apparemment, il y a une petite anecdote. Steve Gadd joue dans le deuxième et troisième morceau parce que dans le Cimetière des éléphants, il est venu un petit peu en retard. Et finalement, il a dit qu'il ne voulait pas jouer dessus. Donc du coup, c'est Bernard Purdy qui a pris la place. Donc ça va, il a choisi quelqu'un d'autre qui est assez capable aussi à la batterie. Donc,
bah, surtout pour faire ça, enfin, je veux
oui,
dire...
voilà, c'est vraiment dans ses cordes, c'est vraiment le truc... Écoutez, par exemple, Green Earrings de Steely Dan, il est à la batterie, c'est incroyable. Au piano aussi, au Rhodes, c'est Richard T, qui a joué aussi avec Paul Simon. Donc, le son, il est reconnaissable entre mille. La ligne de basse, elle est incroyable aussi. Le saxophone réminiscent de Gaucho de Steely Dan aussi. Il y a toujours un petit deuxième degré, moi, genre, voilà, je suis dans le safari partant, ça me parle beaucoup. Donc, voilà. Seb ?
Non, j'ai oublié de dire un truc.
Oui.
Musicalement, et au niveau de la production, je vais quasiment pas en parler parce que j'ai quasiment rien à dire, en fait. Il y a aucun problème.
Moi, c'est du velours. Hein.
C'est super bien joué, ça sonne super bien, etc. Pour moi, mon seul souci, je tacle un peu ma conclusion, mais tu prends des super musiciens, c'est bien, mais ça serait bien de leur donner quelque chose de sympa à jouer, quoi.
Je suis pas d'accord, mais bon. Très bien, Seb. Donc oui, moi, c'est aussi, il y a le deuxième degré qui m'attire aussi beaucoup chez Eddie Mitchell, parce que tu sens que, oui, c'est, comme disait JP, c'est, il n'est pas dans la même cour qu'un Johnny. Pour moi, il est beaucoup plus rock parce qu'il y a le deuxième degré qui l'apporte et c'est assez, assez chouette. Donc, deuxième titre, et moi, j'ai mis 10 sur 10, évidemment. Deuxième titre, je saurais encore t'aimer, et bah, Pierre, je saurais encore t'aimer. Vas-y, je t'en prie.
C'est mieux. Il y a déjà un peu plus d'énergie, c'est un peu plus rock, même si bon, c'est super cliché, mais c'est pas mal. Donc, bon, j'aime toujours pas comme il chante, mais au moins les paroles sont un peu mieux, même si bon, la métaphore routière a quand même bien été rentabilisée. Hein. et bon, même si les instruments sont pas le plus important, il y a quand même une ambiance entre les guitares à droite, les cuivres à gauche, saxophone, je sais pas. Bref, c'est pas incroyable, mais j'ai pas passé un mauvais moment, donc j'ai mis 6.
6 pour Pierre. JP.
Alors, c'est rigolo parce que le début me fait penser mélodiquement à Mon fils, ma bataille de Balavoine.
Oui, il y a des accointances.
Et bon, juste le début, hein, avant qu'il chante et tout ça, mais vraiment, je me dis, oh, on pourrait la chanter dessus, en fait. Et sur le couplet, quoi. Vraiment, le couplet, ça ressemble vraiment à ça. Et bon, voilà, c'est un truc un peu middle of the road qui est plutôt bien foutu, mais que je trouve pas très excitant. Après, voilà, quoi. Il y a quand même la prod qui fait beaucoup au morceau. Hein. En fait, c'est là où je suis en désaccord avec Pierre, c'est que moi, c'est ce qui me permet de tenir sur pas mal de titres, en fait. C'est la prod. Je fais un peu abstraction de la voix et des paroles, et je me concentre sur la musique. Et les mecs, ils jouent et ça sonne, quoi. C'est-à-dire que là, t'as les cuivres, t'as la basse avec les petites notes qui claquent de temps en temps, là. C'est un petit bonheur, quoi. Donc, c'est vraiment du bel ouvrage là-dessus. Et voilà. Donc, moi, je serais aimé, je vais lui mettre 5, parce que franchement, je la trouve pas folle. Mais par contre, musicalement, la prod, et puis comme sonnent les instruments, c'est juste du bonheur, quoi. Même si la chanson est pas terrible, et puis que musicalement c'est assez bateau, bah finalement tu te dis bon bah tant pis, quoi, tu t'apprécies au moins le son, quoi. Au moins c'est bien produit, c'est déjà ça. Donc voilà, 5.
Merci JP. Seb.
Oui, au moins c'est bien produit, c'est déjà ça. Et la chanson est pas terrible. Eddie. Je te me permets de t'appeler Eddie parce qu'on partage les prénoms. Toi, c'est un faux. Moi, c'est le troisième. Si tu as besoin de dire à quelqu'un que tu appelles, tu crains rien de loin, je peux pas te toucher, ça devrait te mettre la puce à l'oreille et te faire comprendre que cette personne a peur de toi et qu'il faut que tu arrêtes de l'appeler et que tu dois la laisser tranquille. Alors, je sais, on est en 1982 et on peut plus rien dire et walk et machin et compagnie, mais quand même.
C'est walk. Merci.
3.
3 sur 10 pour Seb.
Ouais, parce que elle passe.
Ok.
Elle passe.
Moi, j'ai mis 7 sur 10. C'est un rock un peu à la Bob Seger. Le piano, il pianote comme il faut. Richard T, toujours au piano. Les cuivres, délicieux. La slap bass, bon Dieu que c'est bien. Oh la vache, la basse est incroyable. Le pré-refrain qui monte avec les cuivres, c'est simple rock and roll, donc une petite montée en puissance comme ça. C'est vrai que c'est pas le rock le plus intelligent du monde, mais bon, voilà, ça passe, comme dit Seb et comme dit Pierre et comme dit JP. Donc voilà, je vais mettre 7 sur 10. C'est l'un des plus faibles du disque, pas le plus faible, mais voilà, j'ai passé un bon moment. On va passer à J'ai déjà donné. Et Seb, tu veux commencer?
Oh bah oui, j'ai déjà donné.
Bah voilà.
T'es pas boomer un peu avant l'heure écrit quand même, hein?
Non mais c'est quoi le texte, Le texte c'est quand même pas un problème.
Oui, oui.
Non mais on va pas la diffuser, donc je vais me permettre. Sur la plage, les seins se font bronzer, mais les belles sont cachées. Défense de toucher, mais encore heureux.
Oui, ouais, oui.
Encore heureux.
Oui, voilà.
Dans culture, il y a cul. Au moins c'est précis, très précis. Quand c'est simple, tu paniques, tu me noies, je titanique.
Voilà.
Non mais voilà. Non mais alors ça, on se foutait de la gueule de Patrice Sébastien, hein, qui avait fait vive le culturel. Mais Eddie en 82, il a tout, hein.
Ouais.
Et puis ma préférée, c'est quand on dépasse les bornes, il y a plus de limites. Ça, c'est quand même grandiose, hein.
Moi, je l'ai dit, c'est une expression.
Ouais, quand on,
quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite, c'est une expression, donc il l'utilise dans sa chanson. Ouais, tu peux pas lui, tu peux pas lui en vouloir d'avoir écrit ça, parce que de toute façon c'est une expression. Donc
pour moi, ça n'a jamais été une expression. Les deux,
mais
il y a plus limite où on dépassait les bornes. Oui, c'est une expression, mais quand on dépasse les bornes, il y a plus
les deux ensemble,
moi,
ça marche.
Jamais entendu, bah, j'ai jamais entendu
aussi,
ça.
Plein de fois.
Oui, mais parce que toi, t'habites à Dijon, mais voilà. mais c'est digne de Johnny, ça. C'est Johnny qui nous disait si j'avais pas perdu un quart d'heure, je serais arrivé un quart d'heure plus tôt. Bref. Mais la cerise, et ce qui fait le truc. C'est quand à la fin du morceau fait allez ensemble tous plus fort maman c'est bien putain mais c'est un disque en studio ça marche jamais en studio, c'est un truc que tu fais en live quand t'as du public, tu fais pas ça en studio, enfin c'est n'importe quoi, c'est juste c'est prodigieux, c'est y a rien qui va, c'est une catastrophe, c'est une masterclass de tout ce qu'il faut pas faire ce morceau, bref voilà. J'ai déjà donné, j'ai tout donné.
Donc, je te donne deux, c'est ça?
Non, un je pense.
Bien.
Ouais, et encore.
Pierre, tu vas embrayer?
Ouais, bah, on va rester dans la même idée. Hein. On retourne dans les travers des paroles qui n'ont aucun sens, avec notamment l'inclusion du verbe titaniquer et des paroles... Et des métiers pour les animaux, genre un chat policier, tant qu'à faire.
J'aurais aimé que les paroles n'aient aucun sens, personnellement. Elles en ont un, c'est ça qui est triste.
Et oui, c'est ça qui est triste.
Ouais, c'est ça.
Mais encore une fois, heureusement que l'instrumentalisation sauve un peu le tout, parce que c'est vraiment compliqué sinon. Les guitares sont sympas, pareil pour la basse, et heureusement qu'il y a ça. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est la même chose tout le long, et quand c'est le truc que t'aimes pas, c'est pas fou. Donc j'ai mis 5.
5 pour Pierre. JP ?
Ouais, ben voilà quoi. Le son de guitare rythmique, moi je vais retenir ça. La basse qui claque, parce que vraiment ça le fait bien. Un morceau un poil plus enlevé que les deux précédents quand même. Donc c'est un rock un peu plus classique, mais finalement ça fait du bien. Mais le texte, c'est juste pas possible quoi. C'est quand même très 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 problématique.
Oui.
Et voilà. du coup, note punitive, quoi, ça va prendre 4 parce que non, le texte c'est juste pas possible. Enfin, je pense que déjà à l'époque c'était pas possible.
Oh,
tu vois,
oui, ça
c'est vrai. Tu vois, c'est du niveau du Le temps béni des colonies de Sardou, tu vois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu te dis, t'es sûr tu veux chanter ça?
Ouais.
Donc, ouais, non, 4. C'est con parce que franchement, les petites guitares au début, puis la basse là, comme elle claque de temps en temps là, tu te dis, ah putain, c'est joli ça. Mais non, c'est pas possible, les paroles, tu peux pas laisser passer.
Voilà, c'est ça. j'ai mis aussi 4. Pierre,
j'allais parler du bassiste, mais c'est pas important.
Ah, bah si, tu peux lui parler du bassiste, vas-y.
Non, mais je voulais juste te dire son nom, c'est pas.
Ah, Francisco, il s'appelle. Voilà, c'est ça, Francisco Cartero, qui est très très bon.
Bah, le monsieur, il joue bien.
Ouais, il joue bien. Moi, j'ai mis 4 aussi, parce que voilà, c'est. Le rock est un petit peu plus appuyé. Mais le final, voilà, le final, c'est balourd. La slide guitare, on dirait qu'on est dans une station-service du Texas.
Pourtant, c'est pas un morceau enregistré à Nashville.
Voilà, c'est ça. Le... Et il y a une phrase qui est juste restée, c'est « Pourquoi faire dans le facile quand on peut compliquer ?» Mais le reste, putain, c'est pas bien, quoi. T'es comme ça. Mais moi, quand j'ai proposé le disque, c'est genre... Mais bon, là, au moins, on fait pas de... Voilà, il n'y a pas du... On passe pas sous silence, on le dit. Ce texte est complètement problématique. La musique sauve un peu les meubles, mais pas tant que ça, donc 4 sur 10. On va passer à Mauvaise Vibration. Et JP, tu vas commencer, tiens.
Mmh. Ouais, bah, c'est le retour du schmoll en mode crooner, quoi. Et ça lui va comme un gant, en fait, ce genre de chanson, vraiment. Et je trouve que c'est un morceau qui est vraiment coolos, avec les ruptures d'ambiance entre le couplet et le refrain, qui marche vraiment très très bien. Et puis comme toujours, le son, c'est du velours. Pour moi, c'est un des meilleurs morceaux du disque. Ça doit être même celui que j'ai noté le plus haut, quasiment. Avec un autre... il y en a 2-3 qui sont à peu près à cette note-là. Donc non, franchement, un morceau, il va prendre 8, parce que c'est vraiment un très très beau titre.
Merci JP.
On parle de Mauvaise Vibration, là, on est d'accord. Hein.
Ouais.
Non,
mais le texte est vachement intéressant. Le texte est super...
Ah bah oui, hein. Japonais, Frankfurt,
bah
Frick, ouais. Qu'est-ce que c'est profond.
Bah vas-y Pierre, vas-y.
Non, c'est un morceau qui parle déjà en 82 de la banlieue et des soucis qu'il y a à la banlieue. Enfin, c'est,
ouais, sauf que c'est fait sous un angle qui me plaît pas du tout, quoi.
Ah bah peut-être, mais moi je trouve que le morceau est vraiment bien.
Je trouve que c'est... C'est... Désolé Pierre, hein,
vas-y.
Bon, déjà l'intro qui est digne du policier de TF1 des années 80, c'est Au secours. Et puis articule, Eddie. Articule, bordel. Enlève la patate de ta bouche, quoi. Japonais, mais au secours, au secours. Et le texte sur la banlieue, ouais, ok, c'est un texte sur la banlieue. Sauf que c'est un texte sur la banlieue qui fait peur, quoi. C'est boomer sur 20 à mort. C'est,
Je trouve que beaucoup moins que j'ai déjà donné, hein, clairement.
Ah non, mais c'est vraiment, c'est en plus c'est le côté non franchement c'est le côté on va pas là-bas, il y a la racaille quoi. C'est
ah bah je l'ai pas pris du tout comme ça, tu vois.
Mais
c'est bizarre.
Moi en plus c'est un flic de nuit. Enfin moi je l'ai pris comme ça. Si tu veux un texte intelligent sur les banlieues qui date de cette période, tu vas écouter la chanson de Souchon.
Poulailler Song.
Poulailler Song. Voilà.
Sauf qu'elle parle pas de la banlieue, la chanson de Souchon.
Bah bien sûr que si.
Bah non. Elle parle des gens qui ont des a priori, mais elle parle pas de la banlieue.
Mais elle parle forcément des.
Bah non.
Elle
bah
parle non. Des à Rochechouart. Bon, ah oui, c'est pas dans la banlieue Rochechouart. Ouais, on est là.
Non non. Elle parle des gens qui regardent la banlieue de loin, mais elle parle pas des gens. Elle parle pas de la banlieue.
Ben elle en
parle. Elle parle pas des gens qui y vivent.
Non. Elle en parle indirectement. Elle dit ça que Clément, toi, ces gens-là, il y a peur de l'immigration, il y a peur de tout ça.
Mais oui,
ça,
mais elle parle pas de la banlieue.
Ça dénonce. Alors que là c'est vraiment, on a peur. C'est pas bien. Hein. Enfin bref, ça m'a fait penser à BFM TV quoi.
Moi je trouve pas du tout, mais bon.
Et tu mettrais combien ça du coup pour
sans parler du solo d'harmonica. On en parle ou pas en fait
du solo d'harmonica.
Parce que non, ça aussi, t'as pas le droit, quoi. Enfin,
okay.
Bref.
Okay.
C'est écrit où qu'on n'a pas le droit de mettre un solo d'harmonica.
Feeling pas très bon. Ah bah ouais, j'ai pas le feeling, hein, ça c'est clair. Hein. allez, 4.
4 pour Seb. Pierre, vas-y.
Ouais, alors j'ai écrit et je cite. Alors là, on touche le fond. je sais pas ce qu'il a pris et dit, mais là, ça va plus. Fallait le faire quand même, de chanter la fabuleuse énumération japonais Frankfurt Frit. Bref, là en plus, t'as même pas de truc intéressant derrière. Excusez-moi, à 2 minutes, il y a un harmonica distorsion qui entre en scène. Alors à ce point, j'ai juste l'impression que c'est une immense blague ce morceau. Sachez que j'ai hésité à mettre 10 pour rester second degré, mais finalement, j'ai préféré baisser un peu la note pour rester raisonnable, donc j'ai mis 2.
Ok, très bien. Moi, j'ai mis 9 parce que j'ai aimé l'instrumentation. On est dans un film de Tavernier, on est dans un film de Blier. L'harmonica, je l'adore. C'est en fait, t'as l'impression de regarder un film, enfin, d'écouter un film. Donc, c'est ça qui m'a vraiment plu. Donc, pour moi, c'est la deuxième vraiment beau morceau du disque. Donc, 9 sur 10. Un rideau qui tremble à sa fenêtre.
soit le temps l'heure. J'ai peut-être froid mais pas peur. Je descends le chien après dîner. Sous la perche, je suis armé.
On va passer au dernier morceau de la face A. J'ai vendu mon âme au rock'n'roll. Bah Pierre, tu veux commencer ?
Pourquoi pas ?
Vas-y, je t'en prie.
Pour le coup, j'ai pas trouvé grand-chose à reprocher au morceau, autre que les paroles qui font toujours ni queue ni tête. Mais bon, en vrai, le chant n'est pas horrible ici. On a même un peu de chant crié, c'est cool en vrai. Bon, ça reste évidemment très cliché, même si le solo de guitare est rigolo. Mais bon, à ce point-là, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc, j'ai mis 6.
6 pour Pierre. Seb.
Facile de garder la face, surtout quand un ange passe. Ne pas dire aller au coiffeur, mais au taureau, c'est meilleur. Mais pourquoi ? Pourquoi, Eddie ? Pourquoi ? Franchement. Non, mais... Bref. Bon, allez, je vais dire un truc bien. J'aime les refrains, mais pourtant, je monte au filet comme avant. C'est pour moi le meilleur moment du disque. Mais vraiment, premier degré, là, pour le coup, je trouve que ça sonne bien. Je trouve que les paroles sont pas nulles. Et il y a une vraie mélodie, il y a un vrai truc qui se passe à ce moment-là. Et c'est pour ça que... Ouais, j'ai dit que c'était... Allez, j'allais mettre 5 par pitié un peu, mais... ouais, allez, vas-y, mets 5 quand même, même si je me contredis avec...
Oui, au début, mais c'est pas grave.
Mais ça fait pas beaucoup sur un disque quand même.
Ok, très bien. JP.
Ouais, c'est plutôt plaisant, ça joue carré, c'est suave, ça coule dans l'oreille. Le riff est cool. Eddie, il s'en donne un peu à cœur jouer vocalement. La mélodie est plutôt chouette. Bon, on va prendre. Voilà. Mais en fait, il n'y a rien de plus à dire au morceau parce que franchement, il est assez anecdotique en vrai.
Oui.
Et du coup, le morceau va prendre 6 parce que voilà, le morceau est cool. Il est pas mauvais. Il n'est pas spécialement bon non plus. Donc voilà, c'est un bon morceau de fin de face.
Voilà, très bien.
Genre, on s'en fout un peu, on va retourner le 10 dans pas longtemps. Voilà, c'est parfait. 6.
Merci JP, j'ai mis aussi 6. En fait, c'est le filler comme l'album de Michael Jackson.
Mais il est de 83.
Voilà, il est de 83. Eddie fait du Johnny, mais en mieux. Mais c'est toujours pas ma cam. C'est pas ma cam surtout. Il y a une petite guitare à droite qui est percussive, qui est bien savoureuse. Il y a un break de batterie à 2,47. Il est très simple, mais compliqué. Mais il est incroyablement bien exécuté. 6, c'est tout ce que j'ai à retenir.
Alors,
de
simple mais compliqué, c'est pas possible. Facile mais compliqué, ça c'est possible.
Facile mais compliqué plutôt, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je retiens du l'album, enfin du disque, pardon. Merde.
Du morceau.
Du morceau. Voilà.
Oui, écoute, moi c'est tout ce que je retiens du disque. Et
Très bien, donc vous.
Je voulais faire un aparté quand même.
Mais pourtant, je monte au filet comme avant.
Ce qui me fait marrer, c'est j'entends Pierre parler des textes sans queue ni tête. Ça va être drôle quand tu vas être là pour l'épisode sur un album que je vais proposer, je pense, au prochain tour. Je pense que ça va être drôle.
Ouais, mais je ne serai pas là, du coup.
Bon, du coup, vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz?
Oh, bah oui.
Allez, vas-y, parce que tu nous l'as bien vendu, survendu. Oh,
voilà.
Survendu ton quiz. Alors, on espère pas être déçu, maman.
Très
surtout
bien.
Que j'avais mis la barre très très haut quand même avec le quiz oui. sur Genesis. Hein, j'avoue, je veux pas m'envoyer des fleurs, mais je m'en envoie quand même.
Mais c'est très bien. Alors, Country Rock est le dernier album studio en date d'Eddie Mitchell, sorti en 2021. C'est son combienième?
19. Oh, bah, c'est au moins son 42e.
Ah, c'est pas 42e, mais tu es presque, JP. C'est un petit peu plus, enfin un peu
pourtant,
moins.
42, c'est la réponse universelle, donc il a raison. Voilà.
Donc, c'est pas 42, ce n'est pas 19, 40. Pierre.
Ce ouais, n'est pas 40. Genre que je cherche... on va dire 39.
39e, bravo Pierre, bravo.
Allez. Je le savais.
Voilà.
Je le savais.
Alors, deuxième question. Eddie Mitchell a toujours aimé les voyages. Combien de ses albums studio portent un nom de ville ou de pays?
Alors, il y a Londres, il y a Memphis. Mm-hmm.
Il y a un Nashville quelque part?
Oui. Oh, il y a un Nashville, oui, c'est à peu près sûr.
6.
Il y a un Paris, non?
Il y a un Paris.
Ouais.
Est-ce que Rio Grande, ça compte?
Oui, ça compte.
5. Ouais, il doit y en avoir 5.
Il y en a 8. Alors,
à la vache.
Eddie in London en 63. De Londres à Memphis en 66. Rocking in Nashville en 74. Made in USA en 75. Sous la route de Memphis en 76. Eddie Paris Mitchell en 86. Ici Londres en 89. Et Rio Grande en 93. Troisième question. Eddie s'est fait plaisir avec deux volumes de la même tribu, album où il reprend ses plus grands titres en duo avec tous ses potes du musical français et francophone. Citez-moi tous les artistes qui a participé, le dernier qui sèche a gagné. Il y en a 24.
La vache. Je l'ai dit Johnny,
alors,
forcément.
Alors bah non, tu vas commencer, JP.
Johnny.
Le dernier qui sèche a gagné.
Johnny, c'est bon. Ouais.
J'ai
Johnny,
gagné.
C'est bon. Pierre, est-ce que t'en as un?
Non, mais je sais, j'ai gagné. C'est bon. Hop.
Ah, non, le dernier qui sèche a gagné. C'est pas le premier qui sèche.
Bah, je crois que t'as dit le premier.
Ah, bah, c'est le dernier qui sèche qui a gagné. Voilà.
Ah, bon. Donc, tu as dit quoi, JP?
J'ai dit Johnny.
Johnny, c'est bon.
Moi, je pensais qu'il aurait pas été là, Johnny, moi, tu vois. Moi, je dis Calogero.
Calogero, c'est bon. Pierre?
Toujours pas.
T'en as pas. JP?
Souchon.
Souchon, c'est bon.
Seb? Vous le dis.
Obispo.
Vous le dis, c'est bon. Obispo, c'est bon. JP? Oh.
Qui c'est qui a dit Woolsey? C'est Pierre, du coup?
C'est Pierre qui a dit Woolsey.
Dutron.
Lequel?
Jacques.
Il y est, c'est bon.
Je vais dire Thomas.
C'est bon aussi, c'est bien. Pierre?
C'était les deux, en fait.
Oui, c'était les deux, il y a
non,
les deux.
Je sais pas. Non, je sais pas.
Bah, JP, je redonne la parole à JP, vas-y.
Qui c'est que je pourrais dire? Qui c'est qui a déjà été dit?
Alors,
ah bah, il faut suivre. Hein,
Hallyday, Souchon, Obispo, Dutron, Thomas et Jacques.
Uh-huh.
Voilà. Et Calogero.
Renaud.
Renaud, c'est bon.
C'est à qui? C'est à Pierre ou à moi?
C'est à toi, Seb.
Le Forestier.
Le Forestier, c'est bon. Pierre, tu t'en as un autre?
Non, je sais pas. Je vais tenter le gros bluff. Goldman, mais je crois pas.
Goldman, non, c'est pas bon.
Non, bah non.
Bah, JP.
C'est pas étonnant.
Qui c'est qui pourrait être rock? Christophe.
Christophe, c'est bon.
Yes.
Jonas.
Jonas, c'est bon aussi. JP.
Les années 60, 70.
C'est dur.
Julien Clerc.
Julien Clerc, c'est bon.
Ouf.
Seb.
Véronique Sanson.
C'est bon.
Oh oh.
Bravo. JP.
Il y a eu Souchon.
Oui, on l'a dit.
Ça a été
vous
déjà
dit.
Vous le dites, ça a
on
été déjà
Pierre
dit.
L'a dit aussi.
C'est
ah,
moi
Pierre
qui
l'a dit.
L'ai dit.
Maxime Le Forestier.
C'était déjà dit aussi.
Ah putain. Jonas.
Ça a été déjà dit aussi.
Bah, j'ai pas suivi. Qui c'est qu'il peut y avoir? Scheller.
Scheller, c'est bon.
J'ai une idée.
Seb. Il en reste 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oh la vache.
Comment elle s'appelle la femme de Jacques Dutronc? J'ai oublié son nom.
Françoise Hardy.
Françoise Hardy.
C'est pas bon.
C'est pas bon. Oh bah zut. Sauf si JP y foire.
Bah vas-y, JP.
Qu'est-ce que c'est que je vais dire? Arnaud.
Arnaud, c'est bon. Bravo.
Wow.
Seb, t'as plus d'idées? Bon, bah, ce qui reste, c'est Karen Anne, Ibrahim Malouf, Brigitte, Sanseverino, Féfé.
Ah oui, Sanseverino, oui, c'est logique.
Et Juliette Armanet. Il y a aussi Laurent Gérard, Elena Noguera et Cécile de France.
Ah ouais, ah non, ouais, mais là, il y en a, c'était compliqué.
Et la dernière question pour finir, Eddie aime
j'aurais
le cinéma.
Pas eu, j'aurais peut-être tenté Fugain ou Delpech, tu vois.
Ils
mais
sont pas
Delpech,
les deux.
Delpech, il est mort. Hein.
Oui. Delpech, il était mort ouais, à l'époque.
Fugain aussi, il est mort, non?
Fugain, non, il est vivant encore.
Il est toujours vivant.
Il est toujours vivant. Comme Hervé Villard, c'est pareil. Alors, dernière question, Eddie aime le cinéma. Il apprend.
Attends. Hervé Villard, il est mort.
Mais il est pas mort, Hervé Villard.
Hervé Villard n'est pas mort.
Voilà,
il est toujours pas mort. Merci.
Je reprends. C'est bon.
Donc, attendez, Michel Fugain, 81 ans, né le 12 mai 42.
Ah, y a pas, tu vois, par exemple, il n'y a pas. Comment il s'appelle Lavilliers, tu vois.
Non, il n'y a pas.
Reprendre, ouais.
Et Hervé Villard est né en 46 et il a 77 ans.
Voilà.
Donc, excuse-nous Hervé, c'est ça que je cherchais, c'était le excuse-nous voilà. Hervé.
Voilà. Dernière
toujours
question.
Très 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 bon en imitation, hein, vous remarquez.
Oui.
Je ne suis pas laisser parler.
Évidemment,
je suis insupportable depuis que je suis en vacances.
Voilà. Ah bah c'est pour
16h.
Et tu fais que le couper.
Donc dernière question, si j'y arrive. Voilà. Eddie aime le cinéma, il a présenté sur la 3 la mythique émission La Dernière Séance à partir de 1982.
Moi, c'était la dernière séance.
La question est.
Le noir est tombé.
La question est, en quelle année s'est-elle arrêtée?
98.
Bravo Seb.
Je l'ai lu tout à l'heure. Je l'ai lu tout à l'heure dans Wikipédia.
98, ça s'est arrêté?
Ouais.
Putain, je pensais que ça s'était arrêté bien avant ça.
Ça a commencé en quoi? 85, un truc comme ça?
82.
Ça a commencé en 82, 83, ouais, dans ces eaux-là.
Donc on embrasse Walter Lewis.
Le paquet de films que j'ai découvert avec ça.
On va embrasser Walter, Loïs, Luc, Tim, Erwan. J'ai oublié personne, je crois.
Non, c'est bon.
Voilà, c'est bon. Vous nous écoutez sur Spotify.
Enfin, t'as oublié Jean-Jacques.
Ah oui, Jean-Jacques. Et remise de peine aussi.
Jean-Jacques qui a failli venir quand même. Il s'est posé la question.
Vous nous écoutez sur Spotify, donc Deezer. Aussi, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Blue Sky. Donc là, underscore club sur Blue Sky aussi. Donc on va faire la deuxième phase donc avec Elle ne rentre pas ce soir. Et
à
ça
ne
va
pas
être...
confondre avec
Il ne rentre pas ce
Il
soir.
Il ne rentre pas ce soir.
Parce que c'est pas la suite.
Ouais, c'est pas la suite. Et Seb, tu
c'est
m'en
pas
parles.
La suite. Putain, je croyais.
Ben non, c'est pas la suite. Alors, mais les cœurs. mais non, les cœurs. Vas-y, Pierre. Vas-y, je te bon. Laisse.
Ah, ils veulent me tuer là, hein. Là c'est sûr.
Non, c'est juste l'enfer quoi. Vous voyez le gag de Gaston Lagaffe où il y a Bertrand Labévu et Jules de chez Smith en face qui font niap 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 dans le dos de Gaston. Ça me fait la même impression. Mais quel enfer. Et le texte. Mais il me donne de l'urticaire tellement il est puant. Mec, t'as fait le ménage. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un cookie? Non, mais sans rire quoi. Ça pue, c'est dégueulasse comme texte. Allez, deux.
Oh.
Pierre?
Oui, bon, bah, on a déjà parlé des cœurs. La mélodie.
Non, mais je m'attendais
chœurs.
À ce que tu les fasses parce que tu me les as fait au repas ce soir et j'étais mort de rire, quoi. Mais...
Non.
La mélodie.
Je les ai
des
pas
chœurs.
Effacées.
Je suis effacées. Insupportable, je m'en rends compte.
Oui, oui.
C'est pas grave.
Vas-y, Pierre, vas-y.
Bref, la mélodie des chœurs me fait mourir de rire. On dirait Balou dans le livre de la jungle. Et bon, même si j'ai passé. J'en peux plus. Même si j'ai pas passé un horrible moment en écoutant le morceau, c'était pas incroyable non plus.
Oui.
Donc j'ai mis 6. Non, mais j'en peux plus.
6 pour Pierre, ben JP, tiens, je t'en prie.
Alors c'est rigolo que tu parles Du Livre de la Jungle, parce que Eddie Mitchell était dans la version live du Livre de la Jungle. C'est lui qui faisait la voix du singe, de mémoire. Ouais. Sinon, le morceau, c'est non. Hein, c'est beaucoup, beaucoup trop bateau. On sent que c'est pour délirer, mais putain, c'est tellement prévisible les clichés, c'est juste insupportable. Je vais mettre la moyenne, je vais mettre 5. Parce que pour les musiciens, hein, parce qu'ils font le taf. Mais sinon, franchement, non, le morceau, c'est juste pas possible. Donc, non. Ce morceau, c'est à oublier.
Alors, c'est celui que tu veux diffuser, c'est ça, on est d'accord?
Oui, parce que je l'adore.
Donc, je te fais un lancement. Bala, 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 papa. Bala, 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 papa. Et t'enchaînes dessus, tu sais, en fait.
Je vais pas passer la soirée à attendre ton coup de téléphone. J'ai déjà passé la journée à peu de coups à mon chewing-gum. T'attends pas à un dîner au champagne et sorbet glacé. J'ai fait le ménage tout rangé, t'aurais quand même pu m'appeler.
Ah voilà, moi je l'adore ce titre, j'ai mis 9, le doo-wop des années 50, une walking bass et un walking piano, Eddie qui compte trop bien, les chœurs derrière. Moi je suis dans un diner avec mon milkshake, moi, avec mes frites, donc baloum, baloum,
oh là là.
Bala, 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 bam, bam.
Mon Dieu.
J'adore ce
morceau. T'es dans Happy Days quoi, là c'est...
Ah oui c'est ça.
C'est juste pas possible quoi, en 1982 tu fais plus ça.
Ah bah, moi j'adore, en fait, c'est... voilà. Donc bon, voilà, j'ai mis 9 sur 10.
Elle ne rentre pas ce soir.
Ah bah j'adore ça, je suis vraiment là-dessus, j'adore ça. Mais c'est vraiment...
Je suis son frère à Valois.
Ah oui, mais c'est ça. Voilà, mais j'adore. Bon, enfin bref, j'adore ce morceau. On va passer à Change pas de look. Et bah, Pierre, tu vas commencer.
Encore. J'ai pas grand-chose à dire sur ce morceau, outre les paroles
oui,
qui n'ont toujours
pas
de sens.
Oui, parce que t'as
pas
le droit de dire ce que je vais dire.
Ouais. Ouais, la musique derrière est plutôt cool, même si c'est toujours super cliché, donc je pense que je peux lui accorder un 5.
Merci Pierre, JP.
Ouais, et ben c'est le retour des cuivres, et ça fait du bien, sur un morceau un peu up-tempo en plus, enfin un peu plus up-tempo, parce que c'est quand même pas non plus hyper speed, hein, faut pas dire, voilà. Mais les cuivres là, ils sont, oh, ça fait du bien. Et puis bon, les paroles sont pas ouf, Mais je trouve qu'il fait le job vocalement sur le morceau. Vraiment, je trouve que ça sonne bien. Et puis, comme d'habitude, les musiciens assurent derrière. Donc, voilà, c'est un morceau qui est quand même mieux que le précédent. Il n'y a quand même pas à chier. Donc, ça va prendre 7.
7 pour JP. Seb,
change pas de look ou tu vas me retrouver raide devant la télé. Eddie, est-ce que tu as conscience qu'on peut comprendre ça de deux façons différentes quand même ? Parce que... Non, mais... Enfin, le texte, encore une fois, quoi. Alors, on n'atteint pas les sommets de J'ai déjà donné, mais on frôle le firmament quand même. Vraiment. La télé sans l'État, c'est du space opéra. La sardine est à l'huile. Le maquereau au vin blanc. Cherche pas à la redoute ce que tu trouves au printemps. Camoulox. Camoulox.
Ouais, ouais, bah oui. Ouais.
Ben, putain de Camoulox. Ça veut rien dire. Et... Alors, je suis désolé, mais change pas de look, change pas de look, je t'aime au naturel, machin. Ok, très bien. C'est quoi le rapport avec la sardine est à l'huile ? C'est quoi le rapport avec ces deux gueules sans pétain ? Enfin, bref. Cela dit, je suis d'accord avec JP, je trouve qu'il fait bien le taf. Change pas le look ! Comme ça, ça rock, c'est cool. J'aime bien les refrains. Moi aussi, je suis pas fan du maquillage de manière générale, mais par contre, jamais, 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 je dirais à une personne de pas mettre de maquillage parce que moi, j'aime pas. Chacun fait ce qu'il veut. Alors oui, je sais, on est en 82, blablabla, woke, et zut, mais zut à la fin, quoi.
C'est woke. Donc tu mets combien ?
4.
4 pour Seb. Moi, j'ai mis 6. Voilà. Le texte est voilà, la sardine est à l'huile, le maquereau vin blanc. La France baguette camembert, voilà c'est ça. Ouais, je sauve l'arrangement des cuivres. Je trouve que l'arrangement.
Non, mais les cuivres sont top. Hein. Les cuivres sont
Les cuivres sont incroyables.
Mais la musique, d'une manière générale, est top.
Ouais. Ça joue cool, sévère. Mais... Voilà, l'énergie est là. Eddie chante très bien. Mais voilà, quoi, le texte, il te plonge le morceau. Voilà. Et c'est en français, quoi. C'est ça, en fait. C'est peut-être le morceau en français. Non, voilà. C'est comme J'ai déjà donné, c'est pareil. Tu vois. Voilà, donc 6, parce que le morceau est un peu mieux que J'ai déjà donné. Donc, ouais, je mets la moyenne, un peu plus que la moyenne. Donc, 6 sur 10. Tiens, toi, JP, tu vas commencer.
Ouais, et ben c'est une chanson vachement touchante, en fait. Je trouve qu'elle. La manière d'aborder le problème de l'alcoolisme d'une manière assez frontale, finalement. Je trouve qu'elle fait vachement mouche et surtout que musicalement je trouve ça assez solide, c'est vraiment chouette et pour moi c'est une des meilleures du disque, donc elle va prendre 8.
8 pour JP. Seb, tu t'agites sur ton siège.
Je m'agite complètement parce que je suis en désaccord total. Alors j'ai fait le clown jusqu'à présent, j'ai rigolé machin, j'ai fait de la mauvaise foi, on est d'accord. Là je vais être sérieux 2 secondes. Un plaidoyer contre l'alcool, c'est toujours une bonne chose, normalement. Mais là, il n'y a rien qui va. Ce texte, encore une fois, c'est pas possible. L'alcoolisme, c'est une maladie, c'est grave. C'est pas un truc dont on se sort parce qu'on te dit « tiens-toi ». D'accord ? C'est pas comme un... C'est exactement pareil que quand t'as quelqu'un qui est en dépression, à qui on te dit « t'as qu'à te bouger un peu, donne-toi des coups de pied au cul, etc. » Non, ça marche pas comme ça. Et franchement... Franchement, sincèrement, hein, je pense qu'il vaut mieux pas avoir d'amis qui t'aiment soi-disant et qui tient beaucoup à toi qu'un ami qui te dit tu n'intéresses personne, même pas les chiens écrasés, quoi. Qu'est-ce que je fous avec toi ? Comment on peut dire ça à un ami ? Qu'est-ce que je fous avec toi ? Franchement, c'est le niveau zéro de l'empathie. Je trouve ce texte mais dégueulasse, dégueulasse. Alors que je comprends l'intention de départ, mais la réalisation, elle est complètement à côté de la plaque. Alors oui, on est en 82, blablabla, vous allez me dire wok et compagnie, mais mince à la fin, quoi. Moi, je suis complètement en désaccord, je trouve ça dégueulasse comme texte.
Ok, donc tu mets...
Je mets rien.
Je mets rien.
Là, je vais être sérieux 2 secondes, la musique, elle est sympa, le morceau, il chante bien et tout, mais le texte derrière, il me pose vraiment un vrai problème de conscience.
Très bien, merci Seb. Pierre,
ouais, j'ai pas forcément pris le temps de m'attarder sur les paroles de celui-là. La musique est cool, mais j'ai trouvé ça super lent. Donc, j'ai mis 3.
3 pour Pierre, moi j'ai mis 9. C'est la perle cachée du disque. c'est vrai que pour le coup, mon avis vaut ce qu'il vaut, mais je pense que Eddie Mitchell est un magnifique raconteur dans la chanson. La ligne de basse est d'une classe infinie. Le motif cuivre sourd, c'est du velours. C'est du R&B pour moi. C'est vraiment pas du rock. C'est vraiment du R&B superbement troussé. Et la performance vocale d'Eddie est incroyable. Donc, je vais mettre 9 sur 10. Lucille, l'avant-dernière chanson du disque. Et Pierre, tu vas commencer.
Je vais pas parler des paroles problématiques parce que vous allez le faire bien mieux que moi. Mais si on exclut ça, en soi, la musique est pas si mal et j'aime vraiment la guitare. Si on juge que ça, le morceau prend 7, honnêtement. Après, si on parle des paroles, on descend plus à 5.
Donc la moyenne 6, on dit ?
Non, 5.
5, très bien.
Parce que vous avez parlé des paroles.
Bah, très bien, vas-y Seb, je t'en prie.
Alors Lucille, hein, parce que visiblement il prononce pas Lucille mais Lucille, je sais pas pourquoi, c'est pour faire un peu rock et anglo-saxon. Bah,
c'est pour faire un clin d'œil à la chanson Lucille.
Ouais.
Bref, donc c'est une chanson de Michel Jonas, hein, c'est pas une chanson d'Eddie. C'est pas lui qui a écrit les paroles, donc. Et
moi je vois pas où elles sont problématiques les paroles, mais bon.
Je vais t'expliquer. Eddie nous a déjà expliqué dans la deuxième chanson hein, qu'il avait tendance à être un gars toxique, mais là il le confirme hein, puisqu'il choisit de reprendre une chanson de Jonas qui parle de harcèlement. Et c'est pas pour dénoncer, c'est pour confirmer qu'il est toxique. Lucille, elle a dit non, mais il respecte pas le non. Il lui a écrit des lettres 10 par jour. Hein. Elle a pas un cœur en béton que tu dois percer en insistant. Hein. Non, ça veut dire non. Et en plus, il lui reproche de ne pas venir la voir en prison. Mais casse-toi en vrai. Casse-toi. Voilà. Alors je sais, vous allez me dire, on est en 82, blablabla, et je suis woke, et ou Social Justice Warrior, etc. Si vous voulez, mais moi j'assume très très bien. Les chansons comme ça, je peux pas. C'est un vrai problème.
Très voilà. Bien. Donc tu mets rien.
Comme je mets rien. Prochaine. Voilà. Et après, je reviens en clown. Voilà, j'ai fini.
Ok, très bien. JP.
Alors moi j'ai toujours adoré la chanson de Jonas, interprétée par Jonas. Et c'est pour moi c'est le problème, c'est que c'est une reprise et c'est pas une bonne idée. J'ai rien contre le fait de revisiter une chanson. J'aime bien certaines reprises qui reprennent des classiques et qui en font autre chose. Là je trouve qu'il y a rien qui marche en vrai. Je trouve ça à côté de la plaque tout le long. Alors, c'est bien exécuté, ça sonne, mais je préfère mille fois la version de Jonas. Que ce soit dans l'intention, dans la manière d'amener les mélodies. Déjà, de faire un vrai refrain, parce que là, il n'y a pas le refrain. Enfin, c'est compliqué de reprendre Lucille de Jonas, quoi. Parce que lui, il y met une espèce de douceur et de... Comment dire ? De désespoir et de tendresse et de plein de choses mêlées qui font que la chanson est hyper poignante, chantée par lui. Et je trouve qu'avec Johnny, avec Eddie Mitchell, ça marche pas du tout. Ça marche pas.
Tu vois, je peux. J'imagine la chanson, je la connais pas. C'est la version.
Tu connais pas Lucille de Jonas ?
Non, mais tu sais que j'ai aucune culture. J'imagine la chanson plus lente. Et avec
carrément oui.
Et avec du désespoir comme tu dis.
Ouais, carrément
et,
oui.
Et là je peux comprendre.
C'est un mec désespéré qui écrit quoi, enfin qui était amoureux transi et qui donc moi j'ai jamais pris le texte de la manière dont vous le prenez. Donc pour moi il a jamais posé problème ce texte. Jamais. Mais à aucun moment.
Ça reste pas bien hein, d'écrire des 10 lettres par jour à quelqu'un qui te dit non et d'insister. Hein. Ça reste pas bien. Mais je peux comprendre le côté désespoir que tu vois. Et ça me fait d'autant plus dire que cette reprise est complètement à côté de la plaque.
Donc, voilà, pour moi, Lucille, c'est une des plus connues de Jonas, une des plus demandées en concert. Enfin, c'est vraiment une chanson qui est... qui fait partie de son répertoire. Je veux dire, s'il la joue pas en concert, c'est une émeute, quoi. C'est une chanson absolument magnifique. Et je trouve que ce qu'il en fait, même si le côté revisitation, à la limite, pourquoi pas, tu vois, le côté rock, pourquoi pas. Mais je trouve que ça fonctionne pas, quoi. ça, tout simplement, ça fonctionne pas, puis ça va pas avec lui. Je trouve que ça lui colle pas, c'est pas un morceau qui est pour lui. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment du mal avec cette chanson, enfin avec cette version, parce que j'adore la chanson pour le coup. C'est une chanson absolument magnifique, mais pas par Eddie Mitchell. Donc elle va prendre que 5, parce que je peux pas noter mauvaise, je peux pas mettre une mauvaise note à cette chanson, parce que cette chanson je l'adore. Mais voilà, par Eddie Mitchell, c'est non, c'est non, non, non. Donc c'est 5.
5 pour JP, moi j'ai mis 6, c'est pas mieux. Hein. C'est, Eddie, il y va au forceps hein, sur cette version. C'est pas bien. Il y a un petit swing, parce que la chanson d'origine, elle a quand même du swing et un peu de volume.
Bah, Jonas, quand voilà. Même, ça swing. Hein. les mecs qui sont derrière, c'est pas des manchots non voilà. Plus. Donc,
Il y a l'instrumentation, donc il y a des claviers qui surgissent un peu de partout. Il y a la basse qui laisse pas sa part au chien, mais bon, il y a les cocottes de guitare qui sont vraiment sympas. Mais voilà, c'est. Le mec, il veut rentrer un carré dans un rond, quoi. Donc ça, finalement, ça marche pas trop. Donc voilà, 6 sur 10. Je vais mettre que 6. Et on va terminer cet album avec le Cimetière des éléphants, mais la version de Los Angeles. Et tu commençais, Pierre ?
Pourquoi pas ? Ouais, c'est la même chose, mais en différent. Hein. Je pense que je vais mettre la même note, c'est-à-dire 4. Je pense pas que faire deux fois la même chanson dans un album, ce soit vraiment un problème. Mais là, le souci, c'est que je vois pas vraiment la plus-value. Parce que les deux chansons sont quand même très similaires. Bon, vous allez me dire c'est la même, mais
c'est la même
au niveau de la réorganisation. Je sais pas.
L'arrangement est un peu différent.
L'arrangement, voilà.
Dans l'arrangement, il y a beaucoup de choses qui changent en fait. En vrai, quand tu fais attention, il y a plein de choses qui changent, mais
il y a des claviers dans le fond, il y a des...
Oui, il y a des parties pris qui sont différents, mais c'est intéressant pour ça, en vrai. C'est intéressant pour la comparer avec la version qu'on connaît tous, qui était la première, qui est sortie en single. Mmh. Et celle-là, du coup, c'est presque une version de... Pas de travail, mais ils l'ont pas gardé pour le single, il y a une raison, quoi. C'est-à-dire qu'ils trouvaient que l'autre était plus abouti, quoi. Mais du coup, c'est intéressant pour ça aussi.
Ouais,
mais je peux comprendre ça.
Vas-y, finis.
Non, mais c'est juste, voilà, c'est déjà que j'ai trouvé l'album assez long. S'il commence à rajouter des chansons qui sont assez similaires, c'est pas forcément le plus intéressant. Je pense qu'ils auraient pu en profiter pour, je sais pas, les places sur les vinyles, c'était assez limité, non ? Ou pas du tout ?
Oui, mais c'était limité, mais il devait pas avoir 50 000 chansons de plus à mettre sur le disque.
Il en avait deux, puisqu'apparemment il y a eu deux phases B. Donc moi, j'ai pensé comme toi, JP, au début, je me suis dit, en fait, c'est une panne d'inspiration, il savait pas quoi faire. Visiblement, il a enregistré cette version-là en premier, ça lui a pas plu, il a recommencé après à
New York.
À New York. Et quoique je sais pas si dans la chronologie c'est pas Los Angeles en dernier en fait.
Mais je crois qu'il a commencé à Los Angeles, après il a fait New York.
Ouais, mais ça doit être ça parce que. Enfin bon, bref. Et,
ouais.
Et bref, moi ça me plaît bien en fait. Je préfère cette version que la première, je trouve qu'elle est plus douce. Je trouve que la batterie est plus intéressante aussi. Je trouve qu'elle est un peu plus douce, elle est un peu plus un peu moins carrée aussi, j'ai l'impression. Enfin, ça flotte un peu plus. Mais par contre, oui, je me pose vraiment la question de pourquoi avoir mis deux fois la même chanson sur le disque. Je pensais vraiment que c'était une panne d'inspiration, qu'ils avaient rien et qu'il leur manquait une chanson pour remplir le disque, quoi. Mais apparemment non, puisqu'il y a eu deux phases B qui sont sorties des mêmes sessions, donc je sais pas. J'avoue que je comprends pas trop.
Et tu
autant
mets
sur des compilations.
Ouais, ça serait. Ça donne l'impression d'une version acoustique en plus, dans le sens où une version acoustique c'est toujours plus calme, moins arrangé, moins. Là, il est vachement plus bas dans le mix en plus, Eddie. Il est plus fort sur la première version. Et bref, voilà. Est-ce que je mets une note ? J'en sais rien. Moi, si je mets une note, allez, je vais être gentil. Pour finir, j'ai mis 4 à la première. Je mets 5 à celle-là parce que je l'aime un peu plus.
Très bien, merci Seb. JP n'a pas parlé, je t'en prie.
Ouais, moi je trouve ça marrant d'entendre cette version-là, en fait, pour la comparer à celle qu'on a dans l'oreille depuis toujours, en fait. Parce qu'on connaît l'autre par cœur. Enfin, oui. Pour ceux qui connaissent la chanson, on la connaît par cœur. Et d'entendre celle-là, ça fait presque comme entendre une démo, finalement. C'est assez drôle. Et le jeu des comparaisons est intéressant. De voir ce qui lui plaisait finalement, peut-être pas dans celle-là et qu'il a préféré dans l'autre. Mais moi je trouve qu'elle a son charme avec ses petits synthés qui sont pas présents dans l'autre, par exemple, avec un flanger qui est léger sur un peu tout et qui est pas sur l'autre. Et du coup, ces deux approches de. On sent que c'est New York et Los Angeles et c'est pas la même approche de la musique. Mmh. Et du coup, c'est intéressant à analyser parce que c'est à la même période, donc ça veut dire que c'est vraiment. Deux manières de concevoir les arrangements et les mix. Donc ça, c'est presque un petit plaisir de geek, en fait, d'avoir deux versions de la même chanson sur un disque comme ça. C'est un plaisir de geek et de mec qui écoute les arrangements. Et du coup, c'est assez plaisant. Je reste quand même attaché à la version d'origine parce que je la connais par cœur. Mais elle est pas inintéressante du tout, cette version. Elle est différente. Elle est agréable, même si je reviens naturellement plus sur la première parce que je la connais. Mais voilà, c'est un petit morceau plutôt cool. Je lui ai mis 7 parce que j'ai mis un peu moins que la version qui était sortie en single. Mais je pense que c'est plus parce que je connais plus l'autre que ça, quoi.
Merci JP, moi j'ai mis 9. Alors, bon, je pense que c'est volontaire qu'il ait mis les deux. Parce que New York, c'est carré, voilà, ça joue au cordeau. Los Angeles, on est en Californie.
C'est plus doux.
C'est plus doux. On sirote une tequila sunrise au bord de l'océan Pacifique. On rajoute des synthés, du flanger. Franchement, je ne l'aimais pas trop au début. Vraiment pas trop. Et je me dis, ah, quand même. Et ouais, j'ai compris. Et le saxophone, moi, je le suis au bout du monde.
Mais c'est pareil, le saxo, voilà. Je trouve plus intéressant dans la première version ou dans la deuxième.
En fait, vu qu'on connaît moins la deuxième version, donc cette version de Los Angeles, tu découvres des trucs, en fait, ah, c'est quand même bien cool, c'est tout. Et ouais, pour moi, elle est légèrement moins bien que la première, mais la première, je lui ai mis 10. Donc,
c'est pour ça, 9. Moi, j'ai mis 8 à la première et 7 à la deuxième. Elle est un poil moins en dessous, quoi.
Voilà, mais je trouve qu'elle est vraiment très intéressante et tu sens quoi là, c'est... Tu sens l'océan, quoi. Tu sens les.
Mais tu sens que c'est pas la même approche, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est pas la même approche. En plus, c'est la période dorée des années des musiciens californiens, donc 76-84.
Les musiciens de studio.
Voilà, c'est ça. C'est les requins de studio, mais ils savent jouer, ils savent tout jouer.
T'as les mecs de Toto, t'as ces gens-là, quoi.
Tu vois, genre Vinnie Colaiuta est sur la version de.
Oui, c'est ça, c'est Colaiuta sur la version de LA, quoi.
Voilà, donc tu sens qu'il y a du. Voilà.
C'est pas un manchot non plus, le garçon.
Voilà, pas trop. Et Mike Lando aussi, le pote de Steve Lukather, Toto. Donc voilà, tu sens que ça joue bien. Quoi. Comme disait JP, ouais, c'est le côté gigos qui ressort. Ah, c'est bien. Donc voilà. Donc 9 sur 10 pour la version Angelino du cimetière des éléphants. On va passer au bilan de l'album. Et Seb, je vais te passer la parole.
J'ai rien préparé pour. Pour le bilan de l'album, je pense que tu mets le même disque avec le même chanteur. Parce que moi, j'aime bien sa voix, j'aime bien comme il chante. C'est un gars qui a de l'humour, qui est du second degré, ok. Mais là, les textes, j'ai un vrai, vrai, vrai souci qui me gâche complètement le disque. Je crois qu'il n'y a que le cimetière des éléphants sur lequel j'ai rien à dire au niveau du texte, où c'est à peu près poétique, ça passe à peu près. Le reste, j'ai toujours un problème, au moins à un endroit, quoi. Et voilà, alors bon, c'est peut-être le fait que je le découvre maintenant, en 2024. Peut-être que si je l'avais découvert... À l'époque, j'aurais pas eu cette lecture-là. Et peut-être que, du coup, je lui pardonnerais ses maladresses. Peut-être que même j'aurais une certaine affection pour lui si je l'avais découvert à l'époque. Mais en découvrant 2024, moi, c'est un vrai souci. Et quand je suis allé voir un peu les critiques du disque ailleurs et que j'ai vu qu'il était encensé partout... Je me suis dit, mais ah bon, c'est ça le meilleur album d'Eddie Mitchell? Mais je veux pas écouter les autres, en fait. Et voilà. Donc, en fait, je suis vraiment embêté parce que, bon, musicalement, on en a parlé, c'est une autoroute. C'est une autoroute de la variété. Ça coule tout seul, je veux dire, c'est pas intéressant. C'est pas des grandes chansons, mais ça s'écoute, quoi. Si tu fais pas attention au texte, tu rentres pas dans les détails, etc. Même si t'as des trucs... Enfin, je veux dire, le japonais Frankfurt Frites, même si tu fais pas attention au texte, tu l'entends, quoi. Je veux dire, c'est tellement haché, c'est tellement pas beau, Frankfurt Frites. Voilà, y a pas de poésie là-dedans, donc forcément, ça casse à l'oreille. Ça, c'est pas beau. Mais bon, après, le... Voilà, quoi. Je sais pas. J'aurais aimé les textes. En fait, je suis super déçu parce que j'en attendais beaucoup. Parce que, je vous l'ai dit, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Eddie Mitchell. C'est toujours un gars que j'ai trouvé sympa, que j'ai trouvé intelligent, intéressant à entendre. Bon, même si ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce qu'il a à dire, mais c'est pas Michel Sardou, quoi. On est d'accord. Et voilà, j'avais beaucoup, beaucoup d'affection. Donc, j'attendais beaucoup de ce disque. J'étais super content que tu le proposes et je suis tombé de très très haut en fait quand j'ai entendu les paroles et ça me fait chier. En vrai, ça me fait chier parce que j'aurais aimé un album qui soit à la hauteur de ce que j'attendais, de ce que j'espérais. Et je l'ai pas eu et j'en suis le premier désolé. Hein.
T'inquiète. Y a pas de...
J'ai fait beaucoup le mariole dans une bonne partie de l'émission. J'en suis désolé aussi. Je voulais être insupportable. J'avais la place, on n'était que quatre ce soir. Voilà. Donc je me suis dit, je vais me lâcher un peu. Mais voilà, ouais, je suis navré en fait. Je suis déçu parce que... Je pense vraiment que tu mets le même disque, les mêmes musiques, les mêmes musiciens, parce qu'encore une fois, les musiciens, ils sont cool, ils sont bons. C'est dommage que tu leur donnes pas des trucs intéressants à jouer, je l'ai déjà dit, mais ils arrivent quand même à faire des trucs sympas, quoi. La basse en particulier, elle est cool sur tout le disque et c'est pas tout le temps le même bassiste en plus. Donc voilà, tu mets le même disque avec des textes qui sont pas foirés. Je suis content, je prends quoi. Et j'ai parlé du recul par rapport à 2024, etc. Mais est-ce que japonais Frankfurt Frites en 82 ça passait? Ou est-ce que les gens ont dit non, là Eddie, tu déconnes quand même? Bref, j'en sais rien, je ne sais pas. Et voilà,
merci Seb.
Désolé,
c'est pas grave, il n'y a pas de problème. JP.
Ouais, c'est pareil, j'ai pas vraiment préparé de conclusion. Moi, je pense que c'est un album que j'avais déjà entendu il y a très longtemps. J'ai jamais été fan spécialement d'Eddie Mitchell. J'aimais bien le gars, j'aimais bien plein de choses de lui, des singles qui sont rentrés forcément dans l'oreille parce que tu les connais depuis que t'es gamin. Mais j'avais jamais trop fait attention en fait à ce qu'il chantait. Ni finalement aux arrangements, j'avoue, j'avais pas trop fait gaffe jusqu'à maintenant. Donc c'était l'occasion vraiment de se plonger dans un disque et c'était l'occasion de voir que ben il prenait pas finalement les gens pour des cons en termes de musique, c'est-à-dire que ça peut être bateau, ça peut être du rock, ce que tu veux, mais c'est quand même sacrément bien exécuté, bien écrit. Ça, il y a quand même rien à dire là-dessus. Bon, après voilà, le mec il va enregistrer aux États-Unis, il prend des musiciens ricains, bah ça s'entend. Il y a quand même pas à chier. Les mecs, ils ont un groove, ils ont un swing, voilà. Hein. Ça fait du bien à entendre, quoi. Enfin, puis c'est soyeux, quoi. C'est vraiment soyeux à l'oreille. C'est un bonheur pour ça. Après, effectivement, niveau texte, bon, Eddie, il est quand même pas, c'est quand même pas ouf, quoi. Ça manque de.
Mais pourtant, il a fait des textes qui sont super. Enfin, je veux dire, Boogie Woogie, c'est savoureux, quoi.
Oui, non, mais il y en a quelques-uns où il est vraiment très, très bon. Par exemple, Lesbot Blues, moi, ça me fait mourir de rire, quoi. Elle est vraiment drôle. Mmh. Elle n'est pas subtile, mais au moins, elle est drôle. Et puis, voilà, elle n'est pas problématique. Là, le problème, c'est quand même quelques textes qui sont quand même très problématiques. Ils sont problématiques, je pense, aujourd'hui. Il l'était beaucoup moins à l'époque. Je pense que ça passait beaucoup mieux à l'époque. Maintenant, ils le sont. C'est vrai que c'est une lecture qu'on a en 2024 de ces textes-là qui font que, moi, par exemple, le coup du texte sur Lucille, je ne me suis jamais posé la question, en fait, parce que je connais la version de Jonas et pour moi, ça véhicule une émotion qui est complètement différente de la version d'Eddie Mitchell. Donc, toi, je pense que Jonas, c'est un mec... c'est un mec hyper doux. Enfin, voilà, pour moi, il y a pas de question de problème problématique dans ces textes, quoi. Donc, il y a peut-être aussi une question de surinterprétation de certains textes. Mais bon.
Ouais, tout simplement des choses qui passaient à une époque qui passent plus maintenant.
Oui, c'est possible aussi, mais franchement, bon.
Non, mais ça a toujours été, mais même dans le cinéma. Dans le cinéma, combien on a vu de films romantiques où au début du film, t'as un gars qui est amoureux d'une fille et puis la fille, elle lui dit non. Et puis lui, il va insister pendant tout le film, il insiste. Et puis à la fin, hop, miracle, c'est magique, c'est la magie de l'amour. Ils sont amoureux, elle est d'accord, elle dit oui. Et puis ils vécurent heureux, ils eurent des milliers d'enfants. Ça, il y en a combien des films comme ça?
Bah, 90% des films comme ça.
Ben voilà, mais sauf que c'est un vrai problème en fait, parce que c'est montrer aux gamins que quand une fille te dit non, et ben en fait elle veut dire oui mais qu'elle ose pas. C'est montrer qu'il faut insister, que non ça veut dire peut-être. Non, c'est pas ça du tout, non, ça veut dire non. Il faut être clair avec ça et il faut être clair avec les jeunes à qui on fait voir ce genre de film. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. La vraie vie, c'est pas le cinéma.
Ouais. Bon, toujours est-il que pour cet album-là, j'avoue, c'est un disque qui est plutôt plaisant à écouter musicalement, beaucoup moins au niveau des textes. Il y a pas mal de morceaux un peu moyens qui sont musicalement, au niveau des arrangements, plutôt cool, mais qui sont pas spécialement révolutionnaires. Mais je pense que Johnny, ça fait deux fois. Eddie, il n'a jamais été révolutionnaire dans sa façon de faire de la musique, hein, ça se saurait. Mais ça reste agréable. Donc, je vais pas bâcher le disque parce que franchement, musicalement, quand même, ça tient la route, quoi. Mais ça va pas aller très haut, donc ça va prendre un petit 5, quoi.
5 pour JP. Pierre.
Ouais, mais c'est pareil, hein. Les musiciens, franchement, il y a des passages instrumentaux qui sont assez bien foutus et c'est vraiment pas mauvais tout du long. Mais par contre, le chant, bah déjà moi personnellement, j'aime pas trop la manière dont il chante. Je trouve que des fois, il part et puis il fait des longues montées puis des longues descentes et ça me fait soit rire, soit ça me sort du truc. Donc, bon, voilà. Et puis, bon, on a parlé des paroles, on a parlé de tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas mal de mal à écouter quand même. Et j'ai vu des avis, parce que je me suis renseigné un petit peu sur ce que les gens pensaient de cet album, qui m'ont semblé assez lunaire comparé à ce que moi j'ai ressenti pendant l'écoute. Il y a des personnes qui ont dit ça me fait toujours gonfler l'émotion dans mon petit cœur jusqu'à faire déborder de nostalgie mes petits yeux embués. Bon, je trouve que c'est un peu extrême. Nous retrouvons un très bon album, voire un des meilleurs d'Eddie. Et oui, si ça c'est un des meilleurs, j'ai pas forcément envie de voir ceux qui sont autre. Donc, je pense que 5, ça me paraît raisonnable comparé aux notes que j'ai mis sur les différents morceaux. Mais
ouais, c'est un peu la moyenne, ou à peu près. Ouais.
Encore une fois, il y a des super passages, et c'est dommage qu'il y ait d'autres choses qui gâchent un peu tout ça.
Merci, Pierre. Alors, bon. J'ai proposé ce disque parce que voilà, j'avais aussi l'idée d'Eddie Mitchell qui était un personnage sympathique. Et cet album, j'ai écouté Le cimetière des éléphants et j'ai écouté un petit peu au fur et à mesure de cet album. Je me suis dit, ça peut être sympa de le faire. Évidemment, en 2024, il y a des textes qui sont vraiment problématiques. et qu'il n'était peut-être pas en 82, évidemment. Et c'est ça aussi pour ça que je voulais faire celui-là, parce qu'il y a des textes vraiment... Non, ça passe plus, quoi. Et tant mieux que ça passe plus, parce que voilà, les temps changent et tant mieux. Musicalement, c'est ma cam, vraiment. Steely Dan, Paul Simon, un truc comme ça, genre du rock un peu bien troussé par Derrick, hein, tu l'as dit, JP, à Nashville, à New York, à Los Angeles. Je suis, comment dire, un admirateur grand de cette période-là de la musique. Et pour moi, c'est vrai que c'est un album français qui sonne très, très bien. Et j'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie pour l'instant. Où la production et la musique se rejoignent au même niveau. Eddie Mitchell, je sens très bien, je trouve. Mais oui, le gros bémol, c'est le texte, quoi. Et j'ai hésité avec Rio Grande comme album. Et je pense que c'est intéressant de le faire aussi, cet album-là, parce que voilà, il y a des trucs à dire, et tant mieux, parce que voilà, c'est, la vie n'est pas tout rose. Et aussi, il y a le fait, voilà, de voir des albums à la lumière de notre période. Ça, c'est vraiment chouette. Mais ouais, sinon, je mettrais 7 sur 10 au disque, 7 sur 10. Car voilà, je passe toujours un bon moment quand je l'écoute, surtout le Cimetière des éléphants qui reste un classique de la chanson française, et derrière ça joue, quoi, et c'est ça qui m'accroche jusqu'au bout. Même évidemment, voilà, les textes sont ce qu'ils sont et ils sont pas bien, il y en a qui sont vraiment pas bien à la lumière de 2024, mais en 82 ça passait peut-être, mais maintenant en 2024 ça ne passe plus. Donc voilà, 7 sur 10. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs?
Désolé.
Voilà, pas de problème, il n'y a pas de problème. On va se retrouver donc dans 15 jours pour un épisode sur Continuum de John Mayer, proposé par Tim. Donc, on embrasse Luc, Walter, Tim, Loïs et Erwan. Vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Ocha. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Blue Sky et Twitter. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus que salut et à bientôt. Bisous.
Bisous.
Ciao. Merci. Ciao. Au revoir.
See you.